Frédéric Malquier est donc président de la FNAIM 60 Suisse. On a beaucoup parlé d'immobilier dans cette première partie. D'ailleurs, c'est normal, vous êtes venu pour ça. Mais au-delà des généralités, on entre dans une période qui est un petit peu particulière, pas seulement pour l'immobilier, mais qui l'est pour vous. Essayez de nous brosser un petit tableau des difficultés qui ont surgi tout récemment.
Alors il faut aussi rappeler à la clientèle et aux auditeurs plutôt qu'on sort de deux années exceptionnelles en termes de transactions. Nous avons franchi à plusieurs reprises la barre des 1 100 000 ventes sur le territoire français. Une année classique est une année normale à 850 900 000 transactions. Donc on avait un bond de 20 ou 25% en plus. Et il fallait bien qu'à un moment, on ait un petit retour de manivelle et surtout un retour à la normale.
Oui, mais c'est le confinement qui a provoqué ce boost là.
Exactement. Il y a un boost et un boom qui a été vraiment constaté après le Covid, où les opérations immobilières avaient été gelées du mois de mars 2020 jusqu'au premier été 2020, date du premier confinement. Et les gens sont sortis de cette crise-là et ils ont eu envie de consommer français, à la fois pour location de vacances, pour leur destination estivale, mais également à l'année pour acheter, comme je le disais tout à l'heure, plus grand, plus spacieux, avec des extérieurs. Et à partir de là, il y a eu un véritable rush sur les opérations immobilières, sur les ventes, et on a été dévalisés.
Et c'est un phénomène plutôt du Sud ou qui touche toute la France ?
Alors, qui était français, mais avec la démographie positive que l'on connaît aujourd'hui en Languedoc-Roussillon, ex-Languedoc-Roussillon, nous avons énormément de demandes. L'héliotropisme fonctionne à plein, on a l'Espagne qui est à côté, on a les stations des Pyrénées, que sont les Angles, Font-Romeu, la Cerdagne et le Cap-Cyr, et ont attiré énormément de clientèle. Et dans cette région qui est la moins chère du sud de la France, hein, par rapport à droite, à l'est avec PACA, et à l'ouest avec le Pays Basque et les Landes qui sont beaucoup plus chers que nous, et ce qui fait qu'on a pu attirer beaucoup de clientèle qui était désireuse d'avoir plus grand et plus spacieux avec un tarif plus bas que dans notre région. Et ce boom-là a été constaté et vérifié pendant les deux années qui ont suivi, et il fallait qu'à un moment, avec un contexte qui n'est pas forcément favorable, avec une remontée des taux immobiliers, on est passé de moins d'1% à aujourd'hui plus de 3%, avec une inflation qui est assez galopante, avec des taux d'intérêt qui sont plus importants que la normale. On est sur des taux entre 3 et 3,5%. Le livret A est aujourd'hui à 3% net d'impôt pour les gens. Et c'est posé la question pour toute cette clientèle-là de se dire, est-ce que je franchis le cap ? Alors, ça a eu un phénomène. Ça a entraîné des conséquences qui sont assez importantes dans le métier et pour les Français, puisque je le rappelle, l'immobilier est la première dépense des Français, hein, que ce soit pour du locatif ou pour de l'acquisition, et ça a entraîné une rareté des produits, des prix qui ont pu monter. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, on est plutôt sur une tendance baissière, mais par contre, en termes locatifs, il y a une rareté des produits qui fait que les prix des loyers ont eu tendance ces derniers temps à augmenter. Pour des nouveaux produits, on met plutôt 550 euros que 500, et etc. Donc il faut qu'on le surveille et qu'on soit vigilant par rapport à ça.
Oui, c'est le contre-coup alors de ce boom récent.
Tout à fait.
C'est véritablement un contre-coup.
Tous ces indicateurs-là, et à un moment, on a un contre-coup. Et en plus, on a un gouvernement qui, malheureusement, a décidé d'arrêter la construction d'immeubles en défiscalisation. Il faut savoir que depuis plus d'une trentaine d'années, les Français bénéficient de régimes défiscalisants et qui concernent toutes les classes socio-professionnelles. Des classes socio-professionnelles moyennes, hautes bien évidemment, mais toutes les classes sont en bénéficiant. Ici, et des personnes qui vont payer 1 000 ou 1 500 euros d'impôts vont pouvoir bénéficier de ces régimes défiscalisants qui consistent en quoi ? Depuis 30 ans, à acheter un bien, à le mettre en location sous certaines conditions et par conséquent d'avoir droit à une réduction d'impôts. Et cette réduction d'impôts, elle était appréciée des Français et le gouvernement a décidé qu'il y mettait fin après plus de 30 ans de dispositifs de la sorte qui étaient les Girardins, les Borloo, les Cellier, les Pinel, les Duflot.
Beaucoup de ministres ont laissé leur nom.
Beaucoup de ministres, des ministres du logement, effectivement, ont laissé leur nom dans le marbre de la pierre et ont permis à toute une batterie de professionnels liés à l'immobilier, à la fois les agents immobiliers, les promoteurs, les experts, les promoteurs immobiliers, les personnels du bâtiment. Le BTP souffre énormément aujourd'hui parce qu'il y a un plan d'arrêt net des constructions ne permettant pas aux Français de pouvoir se loger facilement.
Oui, oui, alors ça c'est on comprend un petit peu le mécanisme. Alors il y a d'autres choses qui on va y revenir un peu plus tard, mais il y a d'autres faits d'actualité qui s'ajoutent. Alors maintenant le dernier en date, notamment pour les Pyrénées-Orientales, c'est la sécheresse. Vous êtes au pied du mur pour une nouvelle façon de gérer, finalement, dans l'urgence. Alors là, on est dans l'urgence.
C'est ça, Jean-Claude. Mais on est, nous, agents immobiliers, depuis quelques années, on sait surfer sur les conditions du moment et les conditions du marché. Elles étaient Covid il y a 3 ans et 2 ans. Elles étaient inflationnistes avec une guerre en Ukraine et des remontées de taux d'intérêt. Et là, aujourd'hui, viennent de se suragréger à ces éléments-là, un élément important pour nous, puisque le département des Pyrénées-Orientales est un département phare en France parce qu'il est tripartite. Il est à la fois plaine, il est à la fois côte et il est à la fois montagne. Et à partir de là, c'est un département qui paie énormément. On a les plus gros taux de réussite et de location en France. Dans les Pyrénées-Orientales, c'est un département qui plaît énormément. La problématique, c'est que cet arrêté sécheresse qui nous est tombé dessus, qui est justifié par un état des nappes phréatiques et de la consommation d'eau à respecter, nous, agents immobiliers et à la FNAIM, on considère qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il autorise actuellement les campings et les résidences de tourisme à ouvrir leurs piscines de copropriété, leurs piscines, et par contre, les copropriétés, elles, ne sont pas autorisées. Et à partir de là, on doit communiquer auprès de notre clientèle copropriétaire qui ne comprend pas, c'est très simple, et également auprès de nos locataires qui vont arriver, on est aujourd'hui le 12 juin, et on doit louer à des touristes qui vont arriver et qui ne vont pas comprendre comment leurs locations de vacances ne sont pas équipées d'une piscine ouverte. Et ça, ça va être très compliqué à gérer.
Ah oui, oui, parce que psychologiquement, ça, si vous me permettez l'expression populaire, ça vous casse la baraque, là.
Ça nous casse totalement la baraque et on se retrouve avec des non-conformités de logement. C'est-à-dire qu'on a des locataires qui ont réservé un appartement, avaient vu mère ou peu importe, mais surtout avec une piscine. Des enfants en bas âge devaient se baigner dans cette piscine et là ne pourront pas, à l'instant T où je vous parle, l'arrêté qui a été pris par la préfecture des Pyrénées-Orientales est contraignant vis-à-vis de ça et ne nous autorise pas à avoir de l'attitude. Donc ce qu'on a fait, c'est très simple. J'ai adressé un courrier en ma qualité de président de la FNAIM des Pyrénées-Orientales à monsieur le préfet, demandant à ce qu'il y ait une dérogation qui soit donnée. Pourquoi? Très simplement, parce que une piscine de copropriété avec 200 copropriétaires ne correspond pas du tout au même volume d'eau que 200 piscines privées de maisons individuelles qui, par contre, représentent un volume 150 ou 180 fois plus important. Donc, j'espère qu'on en reviendra à la raison et à cette normalité et que ça nous permettra d'ouvrir nos piscines de copropriété comme les résidences de tourisme et les campings.
Oui, voilà. Ben, ça, c'est le problème des normes qui sont parfois, qui contiennent parfois des incohérences. Bon. Et vous les découvrez forcément sur le terrain. Donc, ça, c'est les phénomènes, bon, et les problèmes liés essentiellement, alors, au côté tourisme, logement, tourisme. Mais vous ne faites pas que du logement, tourisme. Il y a aussi la résidence primaire et bon la résidence principale pour l'ensemble de tout le monde. Et alors vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui on a de plus en plus de mal à se loger pour un certain nombre de raisons. Vous en avez évoqué quelques-unes, mais il y en a d'autres également apparemment.
C'est une conjonction, comme on le disait. Il y a une conjonction d'éléments qui sont pas favorables en ce moment à la location. L'arrêt du Pinel fait que les promoteurs ont de plus en plus de mal à construire. On a également des municipalités qui, dans certains endroits, peuvent bloquer les permis parce qu'ils veulent plus de verdure, moins de promotion,
voilà,
moins de construction.
On construit moins pour moins de densité. Diverses raisons.
C'est ça. Ouais, ouais. Aujourd'hui, le produit idéal pour l'État français, c'est la maison individuelle. Sauf que tout le monde ne peut pas se loger en maison individuelle. Et après, il y a également des problématiques de place. Donc à partir de là, il faudrait qu'il y ait quand même un juste milieu qui soit opéré par nos gouvernants en France et qui continue à autoriser à la fois la construction de l'habitat collectif vertical, mais également après derrière, également un peu d'horizontalité. Il y a une clientèle pour les deux types de logements et comme on le disait, il y a une restriction après derrière, il y a un blocage parce qu'on a de moins en moins de logements à louer et ça, la clientèle va avoir de plus en plus de mal là-dessus.
Alors il y a le problème donc des finances, les taux d'intérêt étant remontés, forcément c'est plus difficile à monter des dossiers financiers. Ça aussi, je pense que vous êtes en plein dedans. Cette difficulté-là.
On y est en plein dedans. Alors, je vais un peu le tempérer, et ce qui fait également la réussite de nos départements. On a beaucoup plus de, quand même, d'acquisitions dans des départements touristiques comme les nôtres, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault. On a plus d'accession à la propriété ou à l'achat en secondaire, notamment sans apport. Sans financement, pardon. Oui. Sans financement. Et donc, on a beaucoup d'opérations qui sont financées en propre par les gens ou par la revente de leur ancien logement.
Donc, il n'y a pas besoin de banque, là.
Donc, pas besoin de banque. Après, forcément, ce n'est pas 100% des dossiers. On a environ 70% des dossiers qui sont traités sans financement et 30% qui le sont avec financement. Et ces dossiers-là, on a depuis quelque temps des recommandations de la haute autorité bancaire qui dépendent de la BCE et de la Banque Centrale Française. Et donc, ce haut comité nous dit oui, il faut que les gens puissent avoir 35% d'apport minima concernant les opérations, qu'il n'y ait pas un endettement supérieur à 35% également de leur capacité financière. Et donc, tout cela fait que ça se complexifie et que... aujourd'hui, un dossier sur trois, malheureusement, qui est soumis à financement, va capoter. C'est malheureux, mais on espère que, par l'appui de la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Française et du gouvernement, on va avoir des conditions d'accès aux prêts qui vont être facilitées. J'ai vu que le prêt à taux zéro a été, il y a quelques jours, élargi et prorogé jusqu'en 2027. Ça, c'est une excellente nouvelle.
Le ministre des Finances l'a annoncé.
Le ministre des Finances et le ministre du Logement, Olivier Klein, l'a annoncé et c'est une très, très bonne nouvelle. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller encore plus loin que ça. Et nous, à la FNAIM, on a demandé la mise en place d'un plan Marshall, comme au sortir de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce plan Marshall nous permettrait d'avoir une véritable visibilité, à la fois pour les professionnels immobiliers que nous sommes, pour les professions accessoires, le BTP, comme j'ai pu en parler, les banques et qui sont également concernées, mais également pour la clientèle, savoir vers quoi les clients peuvent aller dans les années à venir en termes immobiliers.
Oui. Ce plan Marshall, on marque une première pause, une seconde pause, pardon, Frédéric Macquier. On va y revenir un petit peu parce que j'aimerais que vous nous exposiez ce qui se cache derrière cette expression quelque peu devenue mythique. Plan Marshall. À tout de suite.